En pleine période de pandémie, c'est sûr que tous les services dans les hôpitaux sont mobilisés pour s'occuper de patients qui affichent les symptômes et qui, malheureusement, en ont les séquelles. Et on a vu depuis les derniers jours, puisque le réseau a moins de cas qu'anticipé, plusieurs médecins dire ben, faut pas négliger les autres patients, faut pas négliger les gens qui ont d'autres types de problèmes. Je voyais des cardiologues dire il y a des patients qui ont tellement peur d'aller à l'hôpital, ou même d'aller voir leur médecin, qu'ils décident comme ça de ne pas consulter et de passer sous silence des signes. Or, un jour, la facture va se présenter et ces gens-là auront peut-être des complications. Ce matin, je veux parler de gens qui ont des problèmes d'asthme, des problèmes pulmonaires, de bronchite chronique. Comment on doit gérer ça dans un contexte comme celui que nous vivons depuis quelques semaines maintenant? J'en parle avec le docteur Jean Bourbeau, qui est pneumologue au Centre universitaire de santé McGill. Docteur Bourbeau, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Alors, quelqu'un là, qui souffre d'asthme, qui a déjà là, un diagnostic de bronchite chronique, comment il doit s'ajuster, s'adapter ces jours-ci?
Mais d'abord, je voudrais rassurer la population que les services sont encore en place pour les gens qui ont des conditions autres que le COVID. Et tout a été mis en place dans les cliniques et dans les hôpitaux pour que les patients soient appelés et les cliniques, dans la majorité des endroits, continuent, soit par appel par des gestionnaires de cas comme les infirmières, les médecins proprement dit, et aussi de la télémédecine à certains endroits. Ceci étant dit, pour répondre à votre question, la meilleure sécurité que tout individu, qu'il soit patient avec une maladie respiratoire chronique, comme une MPOC, maladie pulmonaire obstructive chronique, vous avez référé à la bronchite chronique, l'emphysème, qui sont les termes mieux connus, hélas, c'est de respecter les recommandations de base qui nous sont émises par la santé publique. C'est les règles de base, donc, de confinement qui sont les plus importantes. La deuxième règle, c'est celle de continuer à prendre ces traitements pour que la maladie soit le plus stable possible et, dans un troisième temps, de s'assurer que s'il y a changement dans les symptômes, que la personne puisse communiquer avec, dans les cas où il y a un intervenant pivot, dans les cas où il y a un médecin et dans les cas où les patients ont déjà ce qu'on appelle un plan d'action, où ils ont déjà été éduqués à quoi faire s'ils ont un problème, un changement au niveau de la symptomatologie. Ces règles-là restent les mêmes et aucun, je vais finir, aucun des médicaments que les patients prennent, que ce soit en ASC, que ce soit en MPOC, ne doit être arrêté. Aucun de ces médicaments-là n'a démontré comme pouvant être dangereux ou représenter des risques face au COVID. Le contraire de ne pas les prendre pourrait être un problème.
Avez-vous l'impression que, compte tenu d'une situation comme celle-ci, là, exceptionnelle, où les gens sont confinés, les gens sont anxieux face à un virus, sont anxieux, stressés sur le plan financier, le fait de vivre donc 24 sur 24 ou presque avec tous les membres de la famille, que ce stress peut amener des gens à voir leur état de santé se détériorer sur le plan physique?
Écoutez, l'anxiété est toujours un facteur, bon, il peut contribuer, il n'est pas la cause de ces maladies respiratoires, mais il peut contribuer. On sait que l'anxiété peut être un déclencheur dans l'asthme. Les patients qui ont des problèmes de MPOC très avancés en état d'anxiété peuvent voir leur état respiratoire aussi se détériorer. Mais les gens, dans leur traitement et leur suivi habituel, les règles qui s'appliquent à l'anxiété, peu importe quel est le stimulus qui est en cause, sont les mêmes. Donc, vous avez raison qu'on vit une situation qui est exceptionnelle, mais les règles sont les mêmes qu'elles étaient avant face à une situation qui pourrait occasionner de l'anxiété et empirer le problème respiratoire sous-jacent.
Il y a un auditeur qui m'écrit, là, justement, au moment où on se parle, qui il dit « j'ai un diagnostic d'asthme, je suis tous les traitements et tout ça ». Il dit « je remarque parce que je sors tous les jours » que depuis le confinement, la qualité de l'air s'est sans doute améliorée, que je me sens un peu mieux. Ai-je raison?
Ben écoutez, c'est difficile à dire. Il faudrait qu'on regarde aux mesures qui sont faites présentement. D'un point de vue théorique, oui, ça fait du sens parce qu'il y a quand même moins de circulation de véhicules automobiles et aussi plein d'industries qui sont arrêtées présentement. On sait que les deux sources principales de pollution sont les véhicules, les automobiles ou camions, etc., et aussi certaines industries polluantes. Donc, ce n'est pas impossible. Ça va être intéressant à regarder, quel a été l'impact sur la pollution.
Et ce qu'il faut retenir là, pour les gens qui ont donc le diagnostic, qui se sentent peut-être un peu plus inquiets en disant « est-ce que j'ai accès? » Là, les services existent. On ne change pas la médication, on est attentif aux symptômes, puis s'il y a un changement, ben on consulte. L'hôpital est ouvert aussi pour eux, là.
Absolument. Puis il faut surtout pas se mettre dans une situation où c'est sûr que l'attention est portée sur le COVID, puis c'est tout à fait normal. Mais il faut pas oublier qu'il peut avoir des conséquences aux gens qui n'ont pas de COVID parce qu'ils retardent, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, à venir à l'hôpital, que ce soit pour des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires. Il faut comprendre que les gens ne sont pas plus à risque à ce qu'on connaît, asthmatique ou MPOC, d'attraper le virus proprement dit. Encore une fois, les mesures de confinement sont les mesures de base. Si les gens attrapent le virus, comme pour n'importe quel virus, on a des données plus, bien sûr, sur l'influenza, bien certain, les gens se prémunissent d'une complication s'ils prennent bien leur traitement et ils doivent gérer leur exacerbation de la même façon qu'ils le feraient avec un autre virus. Est-ce que ces gens-là sont plus à risque de complications dues au coronavirus, celles qui ont été décrites, là, qui amènent aux soins intensifs? Il semblerait, par les données qu'on a en Chine, oui, ils le seraient plus à risque s'ils ont l'infection, particulièrement pour les patients avec maladie pulmonaire obstructive chronique plus avancée. Donc, ça, c'est certain. Mais en termes de risque de l'attraper, ces gens-là n'ont pas plus de risque que les autres patients.
Merci, Dr. Bourbeau. Bonne journée.
Au plaisir.
Au revoir. Dr. Jean Bourbeau, qui est pneumologue au Centre universitaire de santé McGill, CUSUM, et c'est vrai pour l'ensemble des spécialités, c'est-à-dire que il y a des gens, c'est pas pour rien là, que, par exemple, l'achalandage à l'urgence a baissé beaucoup. Bon, il y a des gens qui peut-être n'avaient pas d'affaires là de toute façon, qui ont décidé de ne pas y aller, mais la peur de l'hôpital, la peur de rentrer dans un centre où il y a des cas de COVID, ben ça fait que des gens hésitent. Or, il y a des gens qui ont des symptômes, puis il y a des gens qui ont intérêt à consulter, même s'ils n'ont pas la COVID, justement pour éviter des complications. Puis je pense à tous ces gens qui m'écrivent aussi qui ont vu une chirurgie reportée de cancer. Une femme qui m'écrit, qui devait avoir des premiers traitements, qu'on a décalé. Son médecin dit, on peut faire avec, mais c'est pas l'idéal. Il semble qu'on est capable maintenant de reprendre un certain nombre d'activités dans les hôpitaux, mais encore là, ça demeure limité. On est dans cette période-là, mais il ne faut pas non plus négliger sa santé en se disant « j'irai pas là, c'est le virus », parce que vous allez peut-être écoper plus tard de cette négligence du moment. 9h13 minutes.